un début d'après-midi empreint de nostalgie, de 14h à 15h, pour la semaine spéciale des 40 ans de la radio, plongeons dans les archives de Radio Galère. Aujourd'hui, retour sur des émissions qui présentent des associations marseillaises, comme le Petit Frère des Pauvres ou la Fondation étudiante pour la vie. Radio Galère, de tout temps, a privilégié un regard critique sur l'actualité. Bon voyage dans le temps.
Bonjour, bienvenue sur Radio Galère 88.4 dans l'émission Les Enfants de Léo, tous les mardis de midi à midi et demi. Tout d'abord, un merci à Sidi à la technique et à Anne-Lise, réalisatrice de notre émission. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence de Manuel Pinto, qui est le directeur des Petits Frères des Pauvres à Marseille. Bonjour Manuel.
Bonjour Pierre-Alain.
Alors nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter cette association, mais surtout celui qui la dirige aujourd'hui sur Marseille, à travers un portrait de vie. C'est l'intérêt de notre émission, mais aussi parce que l'activité des Petits Frères des Pauvres est très forte durant les fêtes de fin d'année, notamment en direction des personnes âgées. Alors avant de parler justement de cette association, de son activité, c'est le principe de l'émission, on va parler de Manuel. Alors Manuel, tout à l'heure on discutait un peu pour préparer l'émission. Aujourd'hui tu es directeur des Petits Frères des Pauvres, mais tu as un parcours militant qui est, on va dire, porté par une histoire et par différents engagements, parce qu'il y a un commencement à cette histoire-là. Est-ce que quand tu vas loin dans ton histoire, tu sais qu'il y a un moment qui t'a peut-être, disons, ouvert sur un engagement particulier?
Donc il y a mon histoire, Manuel Pinto. Je suis d'origine portugaise, comme mon nom l'indique, ou presque. Mon grand-père qui a fui la dictature et la misère, donc avant la Seconde Guerre mondiale. J'ai aussi mon parrain qui est resté là-bas sur place pour s'engager justement contre cette dictature. Donc j'ai connu cette situation d'enfants d'immigrés vivant dans la misère et en même temps témoin de solidarité, quoi. Alors dire que ça vient de là, sûrement. Puis ensuite, c'est les rencontres dans ma vie qui ont fait qu'un jour, je me suis dit, je vais m'engager, puisque changer le monde, c'est possible. Voilà. Et notamment, ça a été un prêtre qui m'a proposé de rejoindre une organisation de jeunesse à l'époque qui s'appelait la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Et de là, dans le quartier, on essayait très concrètement de faire bouger les choses. Et j'ai fait l'expérience que c'était possible de faire bouger les choses. Et du coup, alors j'ai une formation en électronique au départ, je me suis engagé dans le social, on va dire. Même si on peut faire du social dans les entreprises.
Parce que tu as travaillé, tu as eu une expérience professionnelle, et ensuite, disons parallèlement, tu as un engagement bénévole dans une association. Et donc petit à petit, ces deux temps se sont rejoints, et donc tu as pu peut-être travailler en lien avec ton engagement. Quoi. C'est ça. À mon avis, tu as eu une proposition qui a permis que tu travailles de façon salariée, que ton engagement professionnel rejoigne ton engagement militant et tes convictions.
C'est ça, donc très concrètement, c'est vrai, j'étais technicien en électronique et parallèlement à ça, j'étais militant donc à la JOC, et la JOC m'a demandé de m'engager pendant 3 ans au service de l'association. Donc à l'époque, j'ai perdu la moitié de mon salaire, mais peu importe, parce que j'ai rencontré des gens formidables durant ces 3 années. Et à la fin de ce mandat, la question de mon avenir professionnel se posait. Soit je retournais en électronique, mais au bout de 3 ans, ça voulait dire qu'il fallait que je me remette à la page. Soit je cherchais un boulot dans le social comme animateur jeunesse, ce que j'ai fait. Donc j'ai été ensuite employé dans les services jeunesse de municipalité. Après les Petits Frères des Pauvres, alors effectivement, quand j'ai voulu m'installer dans le sud avec mon épouse, j'ai postulé chez les Petits Frères des Pauvres parce que, quelque part, ça rejoignait mon engagement, puisque Armand Marquiset, le fondateur de l'association des Petits Frères des Pauvres, en 1946, son intuition fondamentale, c'était de permettre à des jeunes gens laïcs de s'engager dans des actions de solidarité envers les plus pauvres. Or, je retrouverais bien ce qui m'anime aujourd'hui, quoi, qui est de permettre à des jeunes de mesurer que c'est possible et qu'on peut améliorer la vie et créer une fraternité autour de soi, quoi. Ça demande pas des millions d'euros, je sais pas quoi, il suffit que chacun s'y mette un peu. Même si des lois sont nécessaires, n'empêche qu'il faut que chacun s'y mette un peu.
Et aujourd'hui, donc, tu es au Petit Frère des Pauvres depuis 2002, c'est ça?
Oui.
Et cette association, les Petits Frères des Pauvres, elle a quelle histoire? Je crois que c'est donc, tu disais, Armand Marquiset qui l'a fondée, en 1946, je crois.
Oui.
Donc elle s'est développée sur la France. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments, on va dire, de son histoire, pour mieux comprendre aujourd'hui son rôle et sa place
Alors, les petits frères des pauvres existent non seulement en France, mais aussi en Europe et dans le monde, puisqu'il y a même une fédération internationale. On ne peut pas parler des petits frères des pauvres sans parler de l'histoire d'Armand Marquisel, fondateur, qui était quelqu'un de la haute bourgeoisie, très pieux, qui menait une vie de musicien. Il était lui-même musicien aussi. Et puis un jour, il était confronté à la misère avec sa grand-mère. Il a rendu visite, il a côtoyé la misère. Il a dit « Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il faut que je m'engage envers les plus pauvres. » Et lui aussi a rencontré un curé de paroisse. Et le curé de paroisse lui a dit « Mais les plus pauvres aujourd'hui, ce sont les vieillards. » Au départ, ce n'était pas forcément ce public-là qui voulait... mais au sortir de la guerre, c'est vrai qu'il y avait une politique familiale qui avait été menée. Et les vieillards qui habitaient au sixième étage, pas d'ascenseur à l'époque, pas d'eau courante, toilette sur le palier qui crevait la dalle. Donc le curé lui a donné une centaine d'adresses. Et Armand a commencé à préparer une soupe et aller apporter une soupe à ces vieux. Et il s'est aperçu là que ces vieux avaient besoin, bien sûr, de manger, mais pas seulement. D'où le slogan des petits frères des pauvres qui dit « des fleurs avant le pain ». C'est-à-dire qu'il s'est aperçu que ces gens-là avaient besoin de fraternité, de relations, bref, de retrouver une dignité, quoi. Et c'est comme ça qu'il a commencé son action, avec recruter des bénévoles, et c'est comme ça qu'est née l'action. Et Marseille a été créée en 1958.
Aujourd'hui, c'est une association qui est sur Marseille, qui a des lieux sans doute aussi dans la région, et qui rassemble combien de bénévoles, mais aussi, même si des chiffres ne disent pas grand-chose, mais pour situer un peu votre action aujourd'hui sur Marseille, vous avez quel type d'orientation
Alors aujourd'hui, nous sommes implantés sur Marseille, sur Toulon et sur Antibes. Nous démarrons une action là actuellement sur Antibes. Sur Marseille et Toulon, c'est environ 350 personnes de plus de 50 ans qui sont isolées en situation de précarité, qui sont suivies par environ 200 bénévoles. Et une grosse action pour nous, c'est justement Noël, où là on fête Noël le 24 décembre au soir, parce que Noël c'est pas le 22 décembre, c'est le 24 décembre. Et là c'est tout sur le pont, quoi, salariés, bénévoles, et l'idée c'est pas on apporte l'aumône, c'est on partage un moment fort avec ces gens-là, quoi, à égalité, en toute fraternité justement, puisque ça s'appelle la fraternité. Voilà, donc 300 personnes suivies, notre action phare c'est rompre la solitude de ces personnes. Donc ça se traduit par soit des visites à domicile, soit des organisations, soit on organise des sorties individuelles ou collectives. Nous avons aussi des locaux sur la ville qui nous permettent d'organiser des repas pour ces personnes suivies, et toujours avec les bénévoles, voilà.
Et tout à l'heure on disait justement, on parlait de l'intuition fondamentale d'Armand Marquisez, le rapport aussi à un engagement des jeunes en direction des exclus, des pauvres, aussi donc des personnes âgées qui sont en voie d'exclusion. Le travail que tu essaies de mener aujourd'hui, notamment sur Marseille, notamment en lien avec l'association Unicité, c'est d'essayer de retrouver cette intuition fondamentale, essayer de faire en sorte que des jeunes peuvent aussi apprendre énormément, pas les utiliser comme des bras, comme des mains, mais aussi les accompagner à partager, on va dire, à apprendre énormément de personnes plus âgées ou de personnes exclues. Et c'est ce travail que tu mènes actuellement.
Une des grandes causes des petits frères des pauvres, c'est de se dire il faut qu'on change de regard sur la vieillesse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que la société change de regard sur la vieillesse. Et notamment, ça doit passer par les jeunes. Alors, c'est vrai qu'Armand, son intuition fondamentale était donc de permettre à des jeunes gens laïcs de s'engager dans des actions de solidarité. Tout notre partenariat avec l'association Unicité retrouve cette intuition fondamentale. C'est-à-dire, c'est vraiment permettre à des jeunes de rencontrer des personnes âgées, et des personnes âgées de rencontrer des jeunes, et on s'aperçoit tout le bénéfique, tout ce que ça rapporte. À une conférence sur l'intergénération, une intervenante disait le vieux, parfois, représente l'avenir et le jeune, le passé. Vous voyez, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, hein, les vieux, c'est l'histoire. Eh ben non, quand il y a ces rencontres-là, le jeune, il s'identifie à cette personne âgée. Pour lui, donc, c'est une projection dans l'avenir. Et la personne âgée, elle, en voyant le jeune, elle se rappelle son passé. Donc, il y a des choses qui se jouent. Et ce que je me suis aperçu, moi aussi, c'est qu'une personne âgée avec un jeune, elle a comme une dignité, elle a une volonté de retrouver une dignité, c'est-à-dire qu'elle va montrer qu'elle est valide encore, elle va faire des efforts pour être égal avec le jeune, quoi. Et le jeune, pareil, ça va un peu le calmer, le poser. Celui qui a du mal à rester assis sur une chaise plus de 20 minutes, eh ben non, il va s'adapter à un rythme et là, il se passe quelque chose de fort, quoi. Juste le témoignage de ce plus ancien bénévole qui s'appelle Jean-Pierre, donc il a commencé au démarrage des petits frères des pauvres, hein, qui me racontait qu'il était étudiant à l'époque, il avait 18 ans, et donc il était à la faculté, et tous les midis, il courait à la fraternité pour prendre la soupe et l'emmener et partager ce repas avec un vieux.
88.4, Radio Galère.
Voilà, bonjour à tous, on est mardi, c'est le 1er février, on attaque le mois de février, on est en 2011, c'est l'émission En attendant la bombe avec Scalpa. Et aujourd'hui, comme invité, j'ai La Fève qui est de retour. La Fève, c'est l'association, je sais plus le nom en fait, je suis avec Marine qui va me le rappeler très vite. C'est quoi La Fève déjà?
Bonjour.
Bonjour Marine, chargée de communication à La Fève. Et juste à côté, il y a Rama, coordinatrice du projet à La Fève. Et La Fève, rappelle-moi alors, l'association française pour...
L'association de la Fondation étudiante pour la ville.
Voilà, déjà, bon, alors déjà, c'est des trucs que j'aurais pu retenir depuis la dernière fois. Alors aujourd'hui, vous êtes de retour, parce qu'il y a eu quand même, la dernière fois, vous étiez venu pour une journée, c'était une journée spéciale sur contre le refus de l'échec scolaire.
C'est ça.
Donc il y avait eu une journée, c'était au Collège du Roi d'Espagne, et vous nous aviez expliqué comment on pouvait aborder le sujet avec les élèves qui sont les premiers concernés par les souffrances à l'école, puisqu'il y a des souffrances au travail et il y avait des souffrances à l'école. Donc c'était un peu le sujet de la dernière fois, c'était ça, hein.
Voilà, on faisait un retour sur cet événement qui avait lieu le 22 octobre, donc au Collège Roi d'Espagne.
Alors aujourd'hui vous êtes de retour parce qu'il y a quelque chose qui se passe, ça va être à l'Équitable Café, ça va se dérouler, ça va être demain en fait, donc ça va être le 2 février et ça sera une soirée sur un thème sur l'instruction en fait. C'est organisé par La Fève et c'est ouvert à tout le monde parce que normalement c'est des soirées à La Fève, vous faites des soirées un peu entre vous, entre partenaires, entre étudiants qui sont impliqués dans la structure en tant que bénévoles dans la structure de La Fève. Et ce soir et demain soir, donc ça sera une soirée sur une thématique si on empêchait les riches de s'instruire plus vite que les pauvres.
Comment j'ai raté mon
ascension? Alors attends, pourquoi je t'entends pas du tout?
Ou comment j'ai raté mon ascension sociale?
Mais je t'ai pas... vas-y, dis un deux.
Un deux.
Tu as le micro 2, normalement. Vas-y, 3. Pas.
3.
Non. Ah ouais, j'ai inversé les micros. Vas-y, autant pour moi. Vas-y.
C'est bon?
Ouais,
un deux.
tu vois, il faut tout gérer, la technique. Non, parce que j'ai inversé les micros tout à l'heure.
Non, c'est le micro, direct, en fait. C'est le direct.
Ouais, non, mais t'as le micro 1, en fait. Tu es sur la position 2, mais t'as le micro 1. Je me suis fait avoir tout seul. On reprend.
Oui.
Depuis le début. Alors, on est aujourd'hui avec La Fève, des représentants de La Fève, Marine et Rama, qui sont impliqués dans la structure de La Fève.
Oui.
Et, enfin, ils sont volontaires à La Fève, et ils sont venus nous parler de la soirée qui aura lieu demain à l'Équitable Café. Sur le thème si on empêchait les riches de s'instruire plus vite que les pauvres ou comment j'ai raté mon ascension sociale. D'accord?
Oui, voilà.
Alors c'est vous en fait vous inspirez, vous appuyez de vidéos filmées par le scope, la scope,
oui.
Le pavé.
Mm-hmm. Ben, en fait c'est ça va être des extraits d'une conférence de Franck Lepage, une conférence gesticulée et c'est des petits extraits sur des thèmes qu'on va projeter et essayer de faire un débat autour de ces trois extraits là. Et donc les thèmes, ça va être sur, enfin tous les trois, c'est sur l'éducation. Donc le premier thème, ça va être sur.
Le premier thème, ça va être ascension sociale et reproduction des
inégalités. Oui, voilà. Donc le deuxième, ça va être l'école comme pour le plaisir ou pour le métier. Et puis le troisième thème, ça va être la constante macabre et la suppression de notes.
Ou la suppression des notes et la constante macabre, ouais.
Voilà.
C'est pareil. Alors c'est des extraits que vous avez récupérés. En fait, c'est Franck Lepage. Alors
voilà,
Franck Lepage qui est un sociologue au départ, qui est.
Oui, en fait, là, c'est... il a été directeur des programmes à la Fédération française des MJC et chargé de recherche associé à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. En fait, c'est un militant de l'éducation populaire avec tous les autres membres du pavé, quoi. Donc eux, ils font des conférences un peu sur beaucoup de thèmes, notamment le travail, la culture, beaucoup de thèmes qui concernent tout le monde un peu, qui rentrent dans la société actuelle. Et là, la soirée de demain, le 2 février à 20h à l'Équitable Café, ça va être sur l'éducation.
L'éducation qui est quand même rattachée à La Fève, puisqu'on va encore...
Voilà.
rappeler ce que c'est la FEB, puisqu'on avait déjà fait une émission, mais peut-être des auditeurs n'étaient pas présents. Donc Marine, est-ce que tu peux un peu nous rappeler l'historique de la FEB et ses objectifs et ses missions, et qui c'est qui peut s'impliquer à la FEB?
Donc la FEB, comme on l'a dit, c'est une association qui s'inscrit dans la sphère de l'éducation populaire, en fait, donc qui est de l'éducation du peuple par le peuple. Et le principe a été lancé donc en 1991 par un groupe d'étudiants de Nanterre qui s'était rendu compte qu'il existait deux jeunesses qui ne se rencontraient pas, mais qui vivaient l'une à côté de l'autre, et qui étaient la jeunesse étudiante et la jeunesse des quartiers populaires. Partant du constat aussi que ces jeunesses, même si donc qui n'étaient pas si différentes que ça, mais de leurs différences quand même pouvaient apporter l'une à l'autre. Du coup, ils ont eu l'idée de créer une association qui avait pour but de mettre en relation ces deux jeunesses et de créer une relation privilégiée, justement d'un apport entre la jeunesse populaire et la jeunesse étudiante. Le concept de base, c'est de former des binômes. Donc le binôme se forme d'un étudiant et d'un jeune. Un jeune qui peut avoir entre à peu près 5 ans et 20 ans, donc entre la grande section et la terminale. Et donc ce binôme se rencontre 2 heures par semaine à domicile, ou quand c'est pas à domicile, un lieu proche du domicile, pour discuter, échanger et s'apporter. Donc l'accompagnement, c'est assez large. C'est pas du soutien scolaire pur et simple. On demande pas à l'étudiant d'être un professeur particulier, parce qu'on lui demande pas spécialement d'avoir des compétences éducatives, etc. Et donc le but est d'échanger sur quelque chose d'invécu, d'essayer de répondre aux questions que le jeune peut se poser sur sa scolarité, mais de façon plus large, sur son rapport à l'école, sur son rapport au professeur. Voilà, être un peu un mentor, un espèce de grand frère de substitution qui peut essayer de le guider et de lui donner confiance en lui.
Et un peu de méthodologie aussi.
Un peu de méthodologie. Enfin, selon l'âge, c'est sûr qu'en grande section, la méthodologie, elle s'applique pas. Ça peut être plus donner le goût du livre, montrer que l'école apporte des choses qui ne sont pas forcément des contraintes, donner le goût du livre, de la lecture. Donc il y a tout un tas de choses. Après, il y a aussi l'orientation qui est très importante au niveau collège et lycée. Parce que cette question récurrente de qu'est-ce que tu vas faire plus tard, qu'est-ce que tu veux faire après le collège, ça devient un vrai stress pour les jeunes. Et du coup, les étudiants étant passés par cette phase de recherche et de questionnement peuvent aussi guider le jeune vers les sources d'information, les lieux d'information, et les aider à se poser les bonnes questions. Encore une fois, comme Anne l'avait dit la dernière fois, pour faire en sorte que l'orientation ne soit pas subie et soit plutôt choisie. Et enfin, une phase importante, une part importante de l'accompagnement est l'ouverture socio-culturelle, faire en sorte que le jeune s'ouvre à ce qui se trouve hors école et hors maison, et puisse aller découvrir des lieux de sa ville qu'il ne connaît pas forcément, que ça soit le cinéma, le théâtre, le musée, la bibliothèque, la fac, l'opéra, etc. Donc nous, on a des partenariats et on essaie d'organiser ça de la façon la plus simple possible pour que les jeunes puissent découvrir des lieux qu'ils ne connaissent pas et qui sont pourtant des fois très très proches de leur maison ou de leur lieu de leur établissement scolaire. En gros, c'est ça le projet principal. Et donc nous, on suit tous ces accompagnements, on essaie d'animer le réseau en organisant des sorties, en montant des projets d'initiation. Là, il y a des projets qui sont autour des médias, autour du métier, autour du hip-hop, de la BD, etc., pour essayer de faire en sorte que les accompagnements soient le plus riches possible.
Et là, d'où cette soirée, alors, organisée par la FEB, demain, à l'Équitable Café?
Alors, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle, nous, l'animation réseau. C'est-à-dire que on a un réseau d'étudiants qui est quand même assez, assez vaste, donc qui regroupe environ 200-250 étudiants, voire 300, parce que c'est vrai qu'en ce moment on est en pleine mobilisation, donc les chiffres bougent très rapidement.
Alors vous êtes autour de combien d'étudiants là, au sein de la FEB régionale, région Aix-Marseille?
Aix-Marseille, on doit être à peu près à 300 étudiants.
Oui. 300 étudiants.
Et donc le but est pour nous de faire en sorte que ces étudiants n'agissent pas forcément de façon isolée dans notre accompagnement, mais faire en sorte qu'il y ait vraiment un réseau qui se crée, une dynamique associative. Et c'est pour ça que nous on organise régulièrement des temps de rencontres. Donc des fois ça va être des temps simplement de discussion, de rencontres pures et simples dans un bar, aller discuter et faire en sorte que eux se connaissent et se rencontrent, parce qu'au bout du compte ils font la même action mais ils se connaissent pas forcément parce qu'ils sont pas étudiants au même endroit, parce que voilà, pour des raisons XY ils ne se connaissent pas. Et la soirée de demain fait partie de ces animations réseau. Bon, là, pour le coup, elle est quand même ouverte à un public plus large du fait que l'Équitable Café ait fait sa communication de son côté aussi.
Aussi, ouais.
Voilà, et puis parce que l'Équitable Café a sa renommée sur le cours Julien dans Marseille, donc forcément, ils ont leur public de base. Donc voilà, nous, ça fait partie de ces temps qu'on offre aux bénévoles pour se rencontrer entre eux, pour nous rencontrer nous.
Et puis c'est une ouverture aussi pour des publics qui ne sont pas des bénévoles de la FEB,
oui,
de pouvoir rencontrer les gens de la FEB,
voilà,
bah, peut-être pouvoir c'est... après bénéficier ou participer à vos actions.
Yeah, yeah, baby. Listen to Radio Galère 88.4.
NT Chaîne, c'est la rentrée. Pour bien faire, on est en retard. C'est bien connu. Pour sécher, il faut oser se mouiller. Et donc voilà, une émission spéciale. Septembre. Nombreux. Oh putain, on est venu en courant. NT Chaîne, toujours contre les chaînes. Chaîne de montage, chaîne de télé, chaîne de vélo. Comme je disais, voilà, à tous les étudiants, si vous voulez sécher, il suffit un peu de se mouiller.
Et après deux mois de... J'ai pas de micro. Et après deux mois de rediffusion en montage, on va enfin reprendre
le direct
avec ce soir une émission, comme vous le verrez,
d'actualité.
Dans le thème d'actualité, puisqu'on vous parlera de l'actualité, de ce qui s'est passé cet été à Marseille, des grandes avancées de ce grand projet merdique Euromerde et de l'urbanisme.
Et aussi un peu de ce qui s'est passé cet été au Val di Susa.
En Angleterre, peut-être un petit mot aussi. Un peu
à Marseille.
Oui, je...
Bref, des luttes.
Congo, enfin, c'est
voilà.
Vaste.
Et le tout qui nous parle. Voilà, en tout cas, toujours là.
On parlera de tout.
Et de vous.
Et on vous rappelle le numéro, hein, quand même, au cas où, on sait jamais, sur cette cinquième année maintenant, c'est ça ? Sixième année, je suis perdu.
Ouais, c'est bon, on s'en fout.
Merci.
Cinquième année.
Solidarité, camarade. Moi aussi, je t'adore. Et voilà, vous voyez, on est de bonne humeur. Et
04 91 08 28 10
ou 28 15.
Et voilà,
une des chaînes, une émission
radioactive.
Et voilà, pour
des chaînes, la graine, de grand graine.
Ceux qui n'ont pas le téléphone, bah, c'est 41 rue Jobin. Ils ont quelque chose à dire, il suffit juste de passer.
Et sinon, on a un mail.
Ouais, ça dépend qui.
C'est ndchaîne@no-log.org.
Avec bientôt un super site moderne.
Voilà, qui arrive. Avec, et donc, comme vous a dit, apparemment, c'est pas certain qu'on soit là tous les lundis. On sait que vous le regrettez déjà, mais nous encore plus. Et que, a priori, dans tous les cas, on pourra sévir sur les ondes de Radio Galère maintenant jusqu'à un peu plus tard le soir. Pour les moins feignants.
Ouais.
Bon, après,
en tout cas.
Voilà.
Salut à tous les
galériens
et à tous les enfermés.
Bon, abat toutes les prisons, abat tous les gros cons,
tous les propriétaires,
voilà, tous les matons, toutes les prisons, tout ce qui finit en on.
Riton.
On va peut-être commencer par les histoires de nucléaire, là.
Ouais.
Ah oui.
Et alors, pour commencer, on va vous passer notre jingle, histoire
ah ouais,
de faire bien. Allez, vas-y.
Jingle.
On a le super bonhomme sur la technique.
Super technicien, mais il n'est pas au courant. Là. Bah, comme d'hab.
Oui, il
n'est
pas au courant.
Il commence mal l'année.
On va parler du nucléaire.
Carnet de correspondance.
Ah, je ne l'ai pas pris, là.
Non, non, mais c'est pas grave. Alors, donc, ce qui s'est passé cet été.
Et
ce qui se passe encore d'ailleurs. Pluie noire sur Tokyo, pluie jaune sur le Japon. Suite aux explosions de la centrale de Fukushima Daiichi, des pluies de diverses couleurs tombent ici et ailleurs. C'est normal. Si, si, c'est normal. L'agence météo japonaise a reçu des centaines d'appels pour connaître l'origine de ces intempéries. Les fonctionnaires ont répondu formellement que c'était du pollen. Ils ont donc donné la même réponse que les autorités soviétiques donnaient il y a 25 ans aux victimes de Tchernobyl. Irradié, irradié, Bonsoir. C'est la rentrée.
Bonsoir.
Vous êtes toujours exposé. Sur Tokyo, pluie brûlante. Avec un peu de chance, vous serez bientôt ébouillanté. Mais d'ici là, 6 mois après l'accident de la centrale japonaise, l'heure est à la commémoration. Alors, commémorons aussi, tant qu'on y est. Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl et les dizaines d'autres incidents dont les spécialistes de l'atome n'ont pas jugé utile de nous informer. Commémorons les 543 essais nucléaires effectués dans l'atmosphère en 50 ans et le reste. Commémorons, allons-y, dans ce monde morbide, souvenons-nous du pire pour croire qu'il est passé. Irradiez, bonsoir. Si vous voulez bien, un petit tour de ce qu'ils oublieront sans doute de commémorer. Les premières pluies noires ont été observées à Hiroshima et Nagasaki en 45, quelques minutes après le bombardement. La pluie avait cette couleur parce qu'elle était mêlée des cendres venant de l'explosion. Les survivants l'ont bu, et à cause de ça, ils ont développé les mêmes symptômes que des personnes directement exposées à la bombe atomique. Ces derniers mois, il pleut sur le Japon, et les particules qui tombent sur le sol resteront radioactives durant des dizaines, voire des milliers d'années. C'est normal. À chaque fois, elles s'ajoutent aux précédentes. Empoisonnement inodore, incolore, invisible. Les territoires contaminés sont loin de se limiter à la zone d'exclusion décidée par le gouvernement, certains secteurs habités étant plus pollués que les zones interdites de Tchernobyl. Silence des autorités. Censure. Diffusion de faux sites d'information. Les mots plutonium, corium disparaissent du vocabulaire scientifique. Le gouvernement japonais a recours à tout un assortiment de moyens pour étouffer la contestation. C'est normal. À cause de la trop grande radioactivité au sol, les autorités japonaises ont décidé de prendre les mesures non plus à hauteur du sol, mais au-dessus des toits. C'est comme ça qu'on réduit la radioactivité, en éloignant les appareils de mesure des sources émettrices. Et si tout ça ne vous semblait pas tout à fait normal, ne soyez pas inquiets. Les nuages ne passent pas les frontières.
Ils n'ont pas de papier.
Le gouvernement français a donc réaffirmé son indéfectible soutien à l'atome. Fric, fric, toujours plus de fric et toujours plus de flic, c'est la rentrée. Irradiez, irradiez, souriez. Demain sera pire.
Et commémorons, ainsi nous serons comme nous mourrons. Voilà, et donc c'est tombé bien pile poil dans l'actualité avec...
Le petit four qui a explosé ce matin dans le gare.
Voilà, ils ont mangé des petits fours à marre couler ce matin. Et voilà, et donc ils en ont pas marre de couler. Après, juste...
Mais il ne faut pas s'inquiéter, apparemment il n'y a aucune fuite.
Non, il n'y a pas de fuite. Et puis en tout cas, s'il y a un nuage, il passera pas les frontières, celui-là non plus. Et trouvez aussi sur Internet, à la date du 10 septembre, c'est assez intéressant ce qu'ils ont appelé. Donc, et là, pour le coup, je veux me permettre ce vilain jeu de mots en privé de joke. Bon, la chasse au boulon est ouverte. Et donc, depuis quelques temps, la lutte contre la société nucléaire se cristallise autour de la relance de l'atome dans l'Hexagone. Alors, si l'arrêt de la construction du nouveau réacteur EPR dans le Cotentin sera plus facile à obtenir par une courageuse décision politique, il y a un autre chantier dont il est fort à parier que sa déconstruction se gagnera sur le terrain, c'est-à-dire la ligne à très haute tension Cotentin mène. Après 4 ans d'un combat juridique qui arrive à bout de souffle, le permis de construire de 300 pylônes qui vont balafrer 3 départements de l'Ouest, le combat doit désormais passer par l'action directe. Les tentacules électriques sont le symbole d'une énergie destructrice et sans cesse imposée à coups de matraque. S'opposer à la gangrène galopante de l'électricité permet de reprendre goût à la liberté que le monde nucléaire nous a volée et montrer aussi à quel point ce système est fragile et vulnérable. En déboulonnant pour l'instant de manière symbolique les pylônes existants, l'objectif est d'établir un rapport de force capable de faire vaciller RTE, la gestion des lignes de THT, et de lui montrer que derrière chaque kWh kilowattheure transporté, il cautionne un marché unique basé sur la spéculation financière et le pillage des ressources. Nous appelons donc à déboulonner partout en France les pylônes existants et surtout ceux en construction, afin, comme le disait EDF, de devoir mettre un flic derrière chaque pylône. ce qui ferait naître un vent de révolte incontrôlable et imposerait à la RTE et EDF de renoncer à leur projet nucléaire. À bas le nucléaire et sa société policière. Donc voilà, sinon en soi, c'était donc... vous pouvez retrouver ça sur appel, enfin sur la chasse au boulon, et où donc effectivement il vous explique un peu plus précisément qu'avec une clé de 46 et une clé à molette, il y a moyen de faire trembler ces pylônes.
Et le lien aussi notamment sur un site qu'on s'en sert beaucoup qui s'appelle Jura Libertaire, sur lequel vous aurez tous les liens et toutes les informations qui concernent ce qui se passe là-bas et ailleurs.
Et sinon, il y a aussi sur le site de basse intensité, il y a pas mal d'analyses qui sont faites sur le nucléaire et là surtout sur la société qui produit cette énergie-là et qui a besoin de cette énergie-là.
Donc voilà, il y a un spécial salut à tous les Iraniens. Alors sinon, pour faire encore... je voulais peut-être parler de Vinci, à moins qu'on parle d'autre chose avant.
Non.
Vinci, déjà, juste de rappeler Vinci, donc propriétaire de ce magnifique parking Porte d'Aix.
Donc Vinci qui est une multinationale.
Donc savoir que Vinci Construction possède 80%, enfin construit 80% du parc français des centrales nucléaires, infrastructures hydrauliques, traitement des déchets, oléoduc, gazoduc. On pourra en reparler après un tout petit peu parce qu'on va faire un sujet sur Marseille.
On s'envoie pas une petite musique là?
C'est pas bon, tu risques de...
À fort, Radio Galère. Si, si, c'est super. C'est du tonnerre. C'est du tonnerre.
Bon.
Dans la tabatière.
Dissensus aujourd'hui, une émission qui va parler de choses et d'autres. Par exemple, de quoi on pourrait bien parler aujourd'hui?
Ben, de ça et puis du reste.
Par exemple, ouais.
Mais encore.
Voter, pas voter, oui, non. Ah.
Non. Parlons de choses sérieuses et qui nous intéressent. Je propose... comme titre de l'émission, non pas liberté pour les prisonniers d'action directe, car c'est un sujet qui ne saurait être abordé, mais plutôt...
Ouais, est-ce que tu t'en fous? Dis-le.
Mais plutôt, plutôt le chômage.
Dis-le que tu t'en fous.
Et comment faire pour ne pas retrouver du travail?
Tu parles en tant que travailleur, là, ou que chômeur?
Je parle en tant que...
Dissensus, une émission consacrée aujourd'hui au chômage, au travail, à l'activité, etc.
Les anarcho-syndicalistes respectent trop les horaires de chemin de fer. Les anarcho-syndicalistes reprochent aux marxistes de vouloir s'emparer de l'État, mais eux-mêmes ne rêvent que de s'emparer du mode de production capitaliste. Pour cela, ils préconisent non seulement des syndicats horizontaux, mais aussi verticaux. Ils reproduisent la pyramide hiérarchique. S'identifiant aux valeurs de progrès de la science libérale, ils ne pensent pas le monde en termes de rapport d'échange, mais en termes de logique de production et de respect des horaires de chemin de fer. L'économie, en fabriquant des millions d'exclus, apparaît visiblement comme l'entrave majeure à notre humanité. Pourtant, cette crise représente une chance extraordinaire. En abolissant brutalement le travail salarié, elle fait de l'autosubsistance la seule réponse possible à l'exclusion. Pourtant, tous les syndicalistes considèrent comme un fait uniquement négatif les millions de gens privés de travail salarié. Leur réponse, seule réponse à ce scandale, c'est le retour des exclus dans les entreprises. Les syndicalistes s'identifient aux valeurs de l'entreprise. Les anarcho-syndicalistes parlent de l'exploitation dans les entreprises parce que celles-ci sont le lieu où ils prétendent éduquer les travailleurs. Mais ils ne parlent jamais de l'aliénation dans la société civile. La réflexion sur la société civile est la part secrète de toutes les organisations qui prétendent nous éduquer. Le mythe de la classe ouvrière joue pour eux le même rôle de fiction identitaire que le mythe de la citoyenneté pour les bourgeois. Créer des mythes identitaires est la ruse de l'idéologie nationale, le secret du N de CNT. Tant que les anarcho-syndicalistes continueront de s'illusionner sur la nature de la société civile, parce qu'ils y ont leur adresse, leur journal, leur local et leur idéologie séparées, ils resteront victimes de leurs préjugés. Même si l'on voulait faire revenir tous les exclus dans le système capitaliste, on n'y arriverait pas, parce qu'il est évident qu'il n'y aura plus de plein emploi dans le système capitaliste, avant des générations. Nous sommes condamnés à accepter cet état de fait avec ce qu'il sous-entend de menace ou à changer notre manière de voir. Une humanité entière est abandonnée. Des milliers de machines, d'ateliers, d'hectares de terre sont délaissés. La réponse logique serait de réunir l'humanité abandonnée et les richesses délaissées afin que les exclus puissent travailler pour les exclus et faire de la satisfaction de leurs besoins un prétexte pour communiquer, pour être humain. Avec l'aide d'associations du genre Terre des Hommes ou les Îles du Soleil, si on le voulait vraiment, il n'y aurait plus de chômage. Le problème est que les capitalistes n'accepteront jamais qu'un secteur de production concernant potentiellement 20 ou 30% de la population échappe à leur pouvoir. Ils préfèrent voir cette population se désintégrer plutôt que d'abandonner leur hégémonie. Toute la question est celle de savoir comment dénoncer cette hégémonie. La réponse n'est pas une question en devenir, mais une question de légitimité immédiate. C'est celle de la capacité des humanistes à entrer en dissidence avec les capitalistes. Ce n'est pas tant de syndicats dont nous avons besoin que de sections de la Ligue des droits de l'homme. Gerd van Bruen avait raison quand il écrivait « Tout homme a droit à 24 heures de liberté par jour, si nous sommes humains ». Yves Le Manac, Bruxelles, 2002.
Ben voilà, ça pose des questions là, puisqu'on a décidé de parler du chômage aujourd'hui. Là, il met les pieds, les deux pieds bien dedans, bien dans le plat là.
Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas tiré en rafale sur les syndicats?
Mais lui il a de quoi faire, puisque Yves Le Manac, il a la particularité d'avoir été un des seuls radicaux connus, en tout cas, avoir été aussi ajusteur.
Avoir vraiment été ouvrier, oui, c'est ça.
Et ensuite, avoir été au chômage aussi. Et c'est ce qu'il explique dans ce texte, dont tu as lu simplement la fin, mais dans ce texte-là, il développe notamment tout un certain nombre d'idées sur le travail et sur le chômage. Et dans un texte précédent qu'il avait écrit quelques 10-15 années auparavant, il explique aussi comment, lorsqu'il a voulu arrêter de travailler, donc mettre vraiment en pratique le « ne travailler jamais », comment donc quand il a voulu arrêter son boulot d'ouvrier pour ne plus être ouvrier jamais, eh ben il s'est retrouvé complètement seul et complètement délaissé par les gens qui auraient pu avec qui il aurait pu faire quelque chose, former une espèce de société de gens qui ne travaillent plus. Il disait que c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait finalement. Et c'est ce qu'il explique
C'est-à-dire que bon, j'avais eu l'occasion de présenter ici il y a quelque temps déjà le bouquin de James Schenkel, qui est aussi un très radical, qui a également lui été ouvrier
et syndicaliste
chez Peugeot. Bon, et ce qu'on sent chez Le Manac et aussi chez Schenkel, c'est que quand même, la notion de travail, c'est quand même quelque chose qui est central et qui est pas véritablement, dénoncé. Il y a pas, on sent pas quand même un désir d'abandonner le travail, de le supprimer.
Le Manac, tu veux dire?
Chez Le Manac, il dit jamais ça, il dit jamais qu'il voudrait ne plus jamais travailler. Enfin, il le dit pas.
Ah non, mais il est pour l'abolition du travail salarié, en tout cas.
Oui, mais quand même, il dit dans un autre texte, il dit que il refuse pas d'être ajusteur, mais que ce qu'il voudrait, c'est que ça se passe dans une autre condition, qu'il n'ait pas à subir 24 heures sur 24 l'autorité d'une personne, autorité qu'il ne reconnaît pas. Enfin,
je crois que tu l'as mal compris.
Non. Je crois que assez clairement.
Ce qui remet en cause fondamentalement, c'est la séparation entre le fait d'être, par exemple, ouvrier. Ou d'être intellectuel, ou d'être... C'est les rôles qui refusent.
Oui, c'est ça. L'activité en elle-même, le fait d'avoir une activité dans une usine et de produire, c'est pas ça qu'il condamne.
Si, puisqu'il condamne aussi...
Puisqu'il dit qu'il aurait pu continuer dans d'autres...
Il condamne le statut d'ouvrier, quoi. Il condamne le travail salarié en tant que tel, donc il condamne finalement aussi...
Dans ces conditions-là. Pas le travail, je crois que c'est toi qui a plutôt mal lu, me semble-t-il.
L'activité même du travail tel qu'il l'a connu,
c'est-à-dire le fait de fondamentalement, par exemple, de fabriquer, lui c'était pas des bagnoles qu'il faisait, je sais plus ce qu'il faisait exactement, parce qu'il travaillait plutôt dans une petite usine, quoi. Enfin bon, le fait de fabriquer des machines pour ou des bagnoles ou autre chose, il se pose pas la question. Dans le texte que j'ai relu pour l'occasion, il remet pas en question le fait que ça serve à quelque chose.
Si, mais écoute,
pas dans cela.
Dans les différentes époques de sa vie, parce que
dans Bye Bye Turbin, par exemple, qui est le premier livre qu'il a écrit en 73, où il se réclame quand même des situs.
hein, même s'il en fait une critique. Il s'en prend à l'idéologie situe de l'après 68, qui est une idéologie conseilliste, en disant que ce qu'il faut, c'est pas administrer les usines, mais c'est les supprimer. En gros, il dit ça. Donc il dit qu'il faut qu'on sorte de l'usine. Et l'intérêt, c'est pas le travail, mais c'est ce qu'on peut faire de notre vie.
Oui, non,
mais
il a dit des choses même encore plus extrêmes. Quand il était venu dans notre émission, c'était quasiment un retour à une vie presque primitive dont il parlait. Donc évidemment, il a eu une évolution, ça c'est clair. Mais dans ces textes-là, oui, il parle surtout de questions de libre pensée, des questions d'autorité, je pense que c'est ça qui était à la base de son
souffrance. Il parle de la souffrance liée au travail, et notamment au travail d'ouvrier.
Effectivement, j'ai tout à fait le droit de penser d'avoir dans ma tête une révolte. Tout homme a le droit de penser et de penser contre le système dans lequel il est. Mais en tant qu'ouvrier, comme j'étais complètement bloqué dans mon statut, je savais que cette liberté que j'avais, elle serait toujours en moi. Elle me permettrait pas de passer à une action. Donc c'était encore pire, quoi. J'avais le droit de le penser, à la limite de le dire. Je pouvais le dire dans le syndicat, je pouvais le dire dans le parti, je pouvais le dire où je voulais finalement. Mais ça changerait rien au problème, et donc ça serait une douleur encore plus forte, quoi. C'était presque pire, en fait, il avait l'air de dire que c'était presque pire que s'il avait été en Tchécoslovaquie ou en Pologne dans les années 70, où il n'aurait même pas eu la possibilité de mettre une critique, quoi.
Radio Galère 88.4. Radio Galère.
Tema di Codos, José Laponia, Negro Navarro y compañía. ¡Esa!
Oui, bienvenue sur Raconte-moi l'insertion, Radio Galère. Bonjour Alex, bonjour à tous, bonjour Steven.
Bonjour Didier, 88.4 pour les chiffres et 04 91 08 28 10 si vous voulez contacter pendant l'émission et intervenir. Donc n'hésitez pas, c'est Raconte-moi l'insertion.
Donc je rappelle, nous on raconte et on fait pas l'insertion. Donc en cette fin d'année, il serait peut-être temps de faire un petit bilan de ce qui s'est passé dans l'insertion.
Oui.
Non, qu'est-ce que tu en penses, Alex?
Ben oui, pourquoi pas.
Donc sur le bilan, on peut commencer voir analyser que le bilan 2003. Et il y a eu beaucoup de changements en 2004 quand même. Mais sur le bilan, on peut dire déjà il y a quoi? C'est que cette allocation a permis à plus d'un million de personnes et d'allocataires directs et à 2,2 millions de personnes couvertes par le système RMI de survivre.
Ben oui.
Voilà. Il faut rappeler aussi que le revenu minimum d'insertion, c'est un double engagement. C'est celui des personnes, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de participer à des actions d'insertion pour sortir de leur précarité. Mais c'est aussi celui de la collectivité de permettre aux bénéficiaires du RMI de conduire un projet d'insertion à terme.
Ben oui. Donc, avec, bien entendu, le contrat d'insertion.
Donc, on peut dire que dans le département, il y a à peu près 77 700 bénéficiaires du RMI, que ça représente 7,2 de la population sur le département des Bouches-du-Rhône. Alors que la moyenne nationale est de 3,1. Donc c'est vrai que le département des Bouches-du-Rhône est très touché par cette misère.
Oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé là en 2004? En 2004, tout est sur le dos du Conseil Général.
Oui.
L'État...
Déchargement de l'État vers les collectivités territoriales.
Voilà, et on s'aperçoit, quoi dire, c'est que pour notre département... Or, comme il est prévu dans la loi de décentralisation, il était prévu des actions d'accompagnement sociale et ces actions d'accompagnement social sont pour l'instant inexistantes. Et donc ça part que sur des visées professionnelles et c'est dommageable parce que des fois il est nécessaire de travailler l'autonomie avec des personnes.
Voilà.
C'est un petit bilan.
Ouais, voilà, ouais, un petit bilan. Et on rappelle aussi qu'il s'est tenu, pas la semaine dernière, celle d'avant, je crois, c'était les assises de l'insertion, justement, pour essayer de réfléchir sur le sujet avec le conseil général départemental, donc.
Voilà.
Voilà. Ouais, non, mais en fait, tu m'as pris un peu de cours avec le bilan, là.
Ouais, c'était un petit bilan.
Un petit, ouais, parce qu'en fait, beaucoup de restructuration ou de déstructuration, comme on veut. Avec, ben dans le bilan, c'est bientôt fini les CEC, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de CEC, il n'y aura plus de CES, si je m'abuse. Tout ce qui est emploi jeune, ça a disparu d'une certaine manière. Et puis, pour tout ce qui est du RMA, du contrat d'activité, des autres contrats à destination des plus démunis, des plus défavorisés vis-à-vis de l'emploi, justement, eh ben ça reste encore à venir. Pour ce qui est du RMA, ben, beaucoup d'effets d'annonce, une grosse frayeur pour tout le monde, mais finalement très peu d'effets.
Oui, là-dessus, on nous parle du contrat d'avenir.
Oui, le CA, contrat d'activité, d'avenir.
Le contrat d'avenir, on n'en avait pas expliqué un peu. Ben, aujourd'hui, le Sénat vient de voter le contrat d'avenir, qui sera donc destiné aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation spécifique solidarité. C'est quand même une des principales mesures du plan de cohésion sociale. Donc oui. Ça a été adopté mardi soir, 2 novembre 2004, jour historique. Bon, c'est que le Sénat, hein. Ils ont adopté le contrat d'avenir, donc ça sera plus le contrat d'activité, mais le contrat d'avenir. Sur quel avenir, on se demande. Et qui va permettre aux personnes de retourner au travail. Donc c'est ce qui est annoncé. Hein. Ce contrat va remplacer les autres contrats aidés existant actuellement dans le secteur non marchand, comme les contrats emploi solidarité et les contrats emploi consolidés. Et il prendra la forme d'un contrat à temps partiel. Il sera conclu pour une durée déterminée de 6 mois, renouvelable, dans la limite de 36 mois. Il sera assorti d'une formation obligatoire.
C'est un peu court comme avenir quand même.
Voilà, c'est en 6 mois, il faudra être fort pour essayer de rester, parce que je rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été en contrat emploi solidarité, en contrat d'emploi consolidé, qui n'ont jamais vu, au bout de 5 ans, un contrat à durée indéterminée au sein de leur employeur.
Voilà. Finalement, que des trucs vers la précarité, c'est a priori ce vers quoi nous oriente la politique actuelle et depuis qu'ils sont finalement en place.
Ben, toujours dans l'optique de la décentralisation pour les aides à l'employeur par rapport au contrat d'avenir, le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher, est tombé d'accord avec la majorité sénatoriale pour associer plus étroitement les départements à la mise en œuvre des contrats d'avenir, en leur confiant notamment la présidence d'un comité de pilotage.
Voilà, encore une mesure sortie par l'État et le gouvernement qui sera à la charge des départements et puis des collectivités territoriales.
Donc il y a également des aides versées à l'employeur de la part de l'État et du département. Et les contrats d'avenir devraient entrer en application dès le mois de décembre. Le gouvernement, qui espère en faire signer plusieurs, dizaines de milliers vers Noël. Donc c'est bon, pour Papa Noël, un petit contrat d'avenir.
De 6 mois.
Hein. De 6 mois renouvelables.
Sur 3 ans.
Voilà.
C'est l'horreur, quoi.
Voilà. Et il compte en faire 250 000 l'an prochain.
Comme quoi, il fabrique de la précarité, finalement, hein, l'air de rien.
C'est de la fabrique. Ouais, ben on peut se demander, ouais, est-ce qu'on fabrique pas? On n'est pas en train de produire de l'exclusion, tout simplement.
Voilà.
Par ce style de contrat.
Et ouais, puis tirer d'une certaine manière tous les autres contrats à durée déterminée ou indéterminée, tous les autres contrats plus normaux vers le bas, puisque sachant qu'à côté il y a des contrats précaires, des contrats très mal payés et qui fournissent autant de travail, ben ça peut inciter des salariés qui croient y avoir la sécurité de l'emploi à se rassurer justement en acceptant une baisse, une diminution, bref. Une direction vers la précarité.
Ben disons, c'est remis en cause d'une certaine stabilité dans l'emploi. c'est de faire croire et de faire penser qu'il n'y a que ce style de contrat qu'on puisse connaître chez nous en France, parce que sinon il y a trop de charges. On entend toujours il y a trop de charges, il y a trop de charges, il y a trop de charges. C'est pas possible, salariés, vous êtes trop cher, vous revenez trop cher.
Eh oui, mais à savoir que les charges, c'est quand même l'État qui les impose et qui les met en place.
Voilà, et puis c'est une répartition de la richesse.
Ça devrait. Pour,
avec tous les licenciements qui existent actuellement, on peut s'interroger sur la répartition de la richesse par rapport aux bénéfices engendrés par les entreprises.
Eh oui, et puis moi je m'interroge surtout sur l'avenir. Vis-à-vis d'un système économique pour lequel ces gens-là se battent. Quand je dis ces gens-là, je désigne par là les gens qui pensent libéralisme, qui veulent l'allègement des charges, qui veulent les moyens de déterminer les contrats, c'est-à-dire de licencier, d'embaucher. Enfin bref, tous ces gens-là qui veulent la liberté d'agir, donc libéralisme capitaliste. Je me demande quel avenir pour eux, parce que faut pas oublier qu'un capitaliste, c'est quelqu'un qui met un capital. Ce capital grossit, est rentabilisé, mais il est rentabilisé d'abord par la production de richesses. Cette richesse vient de l'extérieur et de l'achat qui est fait de l'extérieur. Donc si de l'extérieur, il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de richesse qui est produite. Donc le capital n'accroît pas. Donc la politique est mauvaise, à mon avis, dans ce sens.
D'où l'idée, justement, de créer un impôt négatif, style, on va dire, le RMI, qui prend cette vision-là actuelle, c'est-à-dire donner un minimum à des personnes pour qu'ils puissent consommer.
Eh oui, oui.
Non, sans leur donner de la possibilité et le droit à une insertion.
C'est exactement ce
social,
qu'il faut.
Sociale, et surtout en ne prenant plus en compte tout ce qui est accompagnement social.
Ben oui, ça pourrait être envisageable aussi, ce ne serait pas une mauvaise idée. Mais il n'empêche que à quoi sert de produire une richesse si elle est taxée, si on sait finalement que ce circuit fermé, qui devrait être consommateur-producteur, et ainsi de suite, puisque le producteur redevient consommateur à un moment, et que le consommateur redevient producteur à un moment. Donc si ce circuit en boucle est interrompu par un État un peu trop libéral, parce que sous prétexte de libéraliser les entreprises et tout, ils accroissent diverses pressions fiscales indirectes. Il y a un problème dans cette boucle du circuit. Il y a une fuite, si je puis dire.
Il y a une fuite. Ça, c'est sûr, je pense que plus qu'une fuite, c'est une mauvaise répartition
des richesses.
Des richesses. Et de toute façon, les charges patronales, il y a des charges salariales, et il y a aussi des charges patronales, et celles-là, elles sont tout à fait justifiées. C'est la solidarité, on va dire, c'est la solidarité, et c'est normal, je comprends pas pourquoi on les trouve trop chères. Je veux dire, c'est normal de payer des impôts, c'est normal de payer des taxes lorsqu'on vit en société.
Effectivement, tout ça est normal. Le problème est la redistribution de ces richesses, en fait.
Voilà, donc ça, il faudrait s'interroger comment elle est redistribuée.
Si elle est bien redistribuée.
Si elle est bien redistribuée, et sur tous ces schémas directeurs qui sont employés.
Et si justement, dans ce circuit fermé consommateur-producteur, la richesse revient. Voilà.
Radio Galère. 88.4.